Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez déjà, le département s'impose aujourd'hui au travers des compétences qui lui sont confiées comme acteur principal de la solidarité. Au-delà de son action auprès des personnes âgées, il lui appartient par exemple d'améliorer l'accès aux soins de tous sur son territoire. Voilà, le décor est planté. Dans un de ses départements, un projet innovant voit le jour en 2018. Pour en savoir plus sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Charles Dron, directeur opérationnel e-Meuse Santé au conseil départemental de la Meuse. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Jean-Michel.
Jean-Charles, je viens d'évoquer l'existence du projet e-Meuse Santé. Pouvez-vous nous présenter comment et pourquoi est né ce projet ?
Avec plaisir, et je vais peut-être commencer par le pourquoi dans un premier temps. Le pourquoi, c'est avant tout le constat. C'est avant tout celui d'un département rural qui fait la part des choses entre finalement ses forces et ses faiblesses au regard de l'accès aux soins sur son territoire. Le département de la Meuse, comme la plupart des territoires ruraux, a des problématiques de désertification médicale qui se traduit par de l'inégalité à l'accès aux soins. On a notamment un taux de professionnels de santé spécialistes qui est beaucoup plus bas que la moyenne française. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions pour essayer de pallier à cette problématique d'inégalité. Et les solutions, en fait, on les trouve en partie déjà sur le territoire. Les professionnels de santé ont été très volontaristes depuis quelques années, notamment par la mise en place de nombreuses maisons de santé pluridisciplinaires. On a un des taux de MSP le plus important de France. Par ailleurs, dans le département de la Meuse, on a aussi la chance d'avoir un plan de déploiement du numérique, de la fibre, qui en fait un enjeu, en tout cas un atout important au regard de l'accès au numérique dans l'ensemble des territoires. Alors finalement, la conjonction de ces deux critères, le volontarisme des professionnels de santé, la volonté politique du département et puis une offre numérique qui se structure, l'idée de s'appuyer sur les outils du numérique en santé pour essayer de passer à l'étape suivante, en tout cas à conforter encore la pratique des professionnels de santé qui se sont déjà organisés, apparaissait finalement comme une évidence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi faire le constat que l'innovation en santé a du mal à trouver son chemin. Bien souvent, on est sur des cycles de mise en œuvre qui sont longs, les expérimentations sont complexes, l'évaluation de ces expérimentations pose aussi un certain nombre de problèmes. Et finalement, pour un porteur d'innovation dans le monde de la santé, les cycles de décision qui vont permettre demain de diffuser largement ces innovations, ces cycles sont très longs et bien souvent incompatibles avec finalement des cycles de vie de porteurs de ces innovations qui sont des structures économiques relativement fragiles et qui de fait peuvent s'épuiser dans ce chemin. Donc la question, c'était aussi de se dire comment on s'appuie sur un territoire d'expérimentation, la Meuse et deux autres départements, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle, pour faciliter la mise en place de ces expérimentations, pour faciliter aussi leur évaluation, et aussi pousser plus rapidement le passage dans le droit commun, c'est-à-dire disposer des moyens de financement de ces innovations, simplement le financement par l'assurance maladie par exemple, pour que les marchés se créent au niveau national. Alors après, le comment, on a eu la chance d'avoir un événement déclencheur, c'est l'appel à projet de la Banque du Territoire, donc de l'État, au travers d'un programme qui s'appelle Territoire d'innovation, et qui était là pour identifier et financer des projets qui avaient pour vocation à dynamiser les territoires. Et donc, assez naturellement, le département de la Meuse s'est positionné avec ce projet autour de la e-santé pour le compte des trois départements que j'ai évoqués précédemment.
Merci Jean-Charles. Nous avons le comment et le pourquoi est né ce projet, mais quel est ce projet aujourd'hui ?
Alors, le projet aujourd'hui est organisé en 14 actions. Ces 14 actions, elles sont organisées en 4 actes. Un premier axe autour de la prévention, un deuxième axe autour de l'accès aux soins, un troisième axe autour de la prise en charge des maladies chroniques et un quatrième axe autour de tout ce qui va toucher au maintien à domicile et à la prise en charge des personnes fragiles, que ce soit dans le domaine du handicap ou des personnes âgées. Et l'idée du programme InnoSanté, c'était de pouvoir porter ces actions d'innovation dans un cadre qui faciliteront à la fois leur expérimentation, leur généralisation et leur évaluation. Donc pour ça, on est parti sur un modèle où, pour chacune des innovations qu'on va retenir dans le cadre du programme, on va les tester dans un premier écosystème, dans l'un ou l'autre des départements, ce qui va permettre d'en mesurer l'efficience. Ensuite, on va étendre cette expérimentation à d'autres lieux, à d'autres contextes d'expérimentation, pour tester finalement la réplicabilité de ces expérimentations. Et une fois qu'on aura pu évaluer l'évaluation dans cet écosystème-là, eh ben, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir finalement le généraliser à d'autres territoires qui seront en région Grand Est ou qui seront ailleurs. Alors, un autre élément, et ce qui fait une caractéristique du programme InnoSanté, c'est à chaque fois qu'on va mener une expérimentation, on va la mener en étant extrêmement vigilant à quatre critères. Le premier, c'est quelles sont les innovations en termes d'organisation innovante qu'il faut pouvoir apporter en support à la mise en place de l'innovation. Bien évidemment, parfois, les innovations, en fait, elles ont besoin d'un écosystème pour se mettre en place. Et si les organisations qui composent cet écosystème ne sont pas là, on risque de finalement analyser l'évaluation au regard d'un contexte d'usage qui n'est pas bon. Donc, chaque fois qu'on va organiser une expérimentation, on va être extrêmement vigilant à l'organisation. L'autre point, ça va être la formation. L'idée, et parce que InnoSanté est un projet qui s'inscrit dans la durée, c'est pouvoir créer des filières de formation auprès des professionnels de santé, mais également du médico-social et du social, pour que, ou plutôt, ils puissent s'approprier ces innovations et que finalement, dans leur cursus d'apprentissage initial ou continu, ils aient la capacité à pouvoir s'approprier ces innovations. Le troisième élément, c'est celui d'évaluation. Pour nous, c'est un point qui est central. Il faut que l'évaluation qu'on soit en capacité d'amener autour de toutes ces expérimentations, elles puissent être entre guillemets inattaquables et les plus larges possibles pour que les décideurs puissent s'en emparer et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions lorsqu'il faudra les extrapoler ou les développer à plus grande échelle. Et le dernier point, c'est celui finalement du numérique en santé. Bien souvent, on se rend compte qu'un certain nombre de prérequis ne sont pas disponibles au déploiement de ces innovations numériques. Soit parce que le haut débit n'est pas disponible, soit parce que les solutions des professionnels de santé ne permettent pas leur interaction avec ces innovations, soit parce que les organisations qui sont censées assurer la maintenance ou la métrologie de ces systèmes ne sont pas là. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en avance de phase au déploiement de ces innovations à ce cadre numérique pour s'assurer que finalement, la promesse de valeur ajoutée d'innovation, elle soit bien disponible parce que tous les prérequis ont été atteints en amont. Alors pour ça, on travaille sur un modèle qui nous permet de vérifier avant le déploiement que toutes ces conditions sont bien disponibles.
Oui, effectivement, c'est assez complexe. Mais donc, il y a les idées, il y a des projets innovants qui sont préparés et prêts à être expérimentés. Maintenant, comment les financer et quels sont vos partenaires?
Alors, le premier financement du projet, c'est celui de la Banque des Territoires, au travers de l'appel à concours Territoires d'innovation. Ce véhicule-là nous permet d'être financé à hauteur de 9 millions d'euros. Et on a eu la chance, dans le cadre de ce projet, de pouvoir nous appuyer sur d'autres partenaires qui ont compris finalement l'ambition de ce projet et l'intérêt qu'on pouvait y avoir pour l'ensemble de nos territoires. Et ça a permis de générer des financements complémentaires en support à celui de la Banque des Territoires. Et ces cofinanceurs, on va retrouver la région, on va retrouver l'ARS, on va retrouver les départements de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle et bien évidemment de la Meuse. On va retrouver également des financements en support de la part de deux GIP qui font du développement économique dans le sillage du projet CIGEO, donc le GIP Objectif Meuse et le GIP Haute-Marne. Et puis, ces financements pourront être complémentés par des appels au FEDER sur des sujets, des thématiques bien précises du projet. Alors aujourd'hui, on est sur un programme qui est financé à hauteur de 23 millions d'euros. Mais j'ai envie de dire que ce financement-là est un financement qui va nous permettre de mettre en place le programme et de financer les premières actions. Notre objectif, c'est de pouvoir être un véhicule de développement de l'innovation dans le temps. On a identifié des innovations aujourd'hui, on ne sait pas identifier des innovations qui arriveront dans 3, 4, 5 ans. Et pour ça, il faut qu'on soit en capacité de les financer au moment où on les aura identifiées. Donc on va être finalement en constante recherche de financement auprès d'opérateurs publics, mais également d'opérateurs privés, pour pouvoir continuer à financer notre programme. Et en échange, Innos Santé apportera cet écosystème d'expérimentation, d'évaluation et d'accélération de la transition finalement du cadre expérimental à un cadre de droit commun dans lequel les opérateurs trouveront leur marché. Alors parmi nos partenaires, on a des partenaires qui sont organisés en 5 collèges et qui vont couvrir finalement tous les pans du projet. On va retrouver les industriels et les startups dans un premier collège qui est celui des opérateurs économiques. On va retrouver le monde de la recherche et les collectivités territoriales. On va retrouver les patients, on va retrouver le monde de la santé et puis on va retrouver le monde de la recherche. Alors tout ça fait un consortium de 40 partenaires. Et parmi ces 40 partenaires, je peux vous citer un certain nombre d'entre eux parce que c'est vrai qu'ils ont joué un rôle assez majeur dans le montage et dans la configuration du projet. Le CEA, tout d'abord, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est finalement le partenaire qui a apporté ce projet-là auprès du conseil départemental et mis le doigt sur cet appel à projet territoire d'innovation. Je pense qu'il faut aussi nommer l'ARS hein, qui a soutenu le projet de bout en bout, et notamment la direction territoriale 55 et son directeur Cédric Cablan, qui ont apporté un soutien majeur dans l'identification des projets à réaliser et dans la coordination du système. On a aussi le groupement régional d'aide au déploiement de la e-santé, PULSI, qui est un partenaire très important pour nous pour le déploiement finalement des prérequis numériques qui vont nous permettre de tester nos innovations. Et enfin, l'Université de Lorraine qui joue un rôle majeur dans la configuration du cadre d'évaluation qu'on veut mettre en place. Donc voilà, ça c'est nos principaux acteurs, entre guillemets, structures. Et puis, il faudrait surtout pas oublier les professionnels de santé du territoire. Alors, les médecins, mais également les kinés, les infirmières, tout le soin à domicile, les travaux autour de l'autonomie et la prise en charge des personnes fragiles, qui se sont largement mobilisés dans le montage de ce projet et qui aujourd'hui sont dans les starting blocks pour pouvoir expérimenter avec nous ces innovations.
Ouais, effectivement, là, il fallait un chef d'orchestre, ce que je pense qui est le rôle que joue votre organisation. Quelles sont les réussites les plus remarquables de ce projet que personnellement je qualifierais d'ambitieux et exemplaire?
Je vous remercie pour cette remarque déjà. C'est vrai que pour nous, en tout cas, c'est la cible qu'on s'est donnée. Hein. Et on a les moyens d'y arriver. Et on a aussi finalement les partenaires qui ont choisi de nous accompagner dans cette cible-là. Donc on en est très heureux. Je vais vous donner trois exemples. Alors le projet, en fait, on a été notifié par la Banque des Territoires en septembre dernier. Et vous l'avez vu, on est une grosse machine avec 40 partenaires, donc la mise en route prend toujours un petit peu de temps. Mais ceci dit, on se devait d'être réactif. Pourquoi? D'une part, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les professionnels de santé sont dans les starting blocks et nous ont poussé finalement à démarrer des choses au plus tôt. Et que, par ailleurs, il y a des contextes qui ont fait que on a dû être au rendez-vous. Et ça, ce sera le premier exemple que je vais vous donner. On a travaillé notamment dans le cadre de la crise de la COVID-19 avec les professionnels de santé qui nous ont sollicité pour les accompagner finalement dans la recherche et la mise en place de solutions numériques en support à la crise. Alors ça s'est traduit de deux façons. La première, ça s'est traduit par un accompagnement dans l'appropriation des solutions de téléconsultation, et notamment celle proposée par PULSI et un opérateur économique qui s'appelle OPI et qui fait partie du projet. Et ça a permis de faciliter la mise en place de la téléconsultation auprès des professionnels de santé du territoire. Le deuxième projet, c'est que très rapidement, les médecins nous ont expliqué qu'il fallait suivre les patients suspectés Covid à domicile, puisqu'ils ne pouvaient plus se rendre dans les cabinets, et que pour ça, il fallait qu'on soit en capacité de remonter les symptômes à différents temps. Et les solutions qui étaient disponibles sur le marché étaient des solutions, en fait, où c'était les patients qui remplissaient finalement ces symptômes. Les médecins nous ont dit que finalement, la population de Meuse ne permettait pas forcément de s'appuyer sur ce type de solution. Population plutôt âgée, une population qui n'était pas forcément à l'aise avec l'usage d'outils de type smartphone, Et puis, des personnes âgées qui, de toute façon, étaient pas forcément capacitées, par exemple, de documenter leurs symptômes sur ces approches et également d'avoir des réseaux qui permettaient de communiquer ces données-là. Donc, on est parti sur un postulat différent, c'était celui d'avoir les professionnels de santé, donc soit les médecins traitants, soit des médecins traitants, soit des professionnels de santé en délégation du médecin traitant, qui prennent leur téléphone et qui appellent ces patients, une fois identifiés par leur médecin, pour connaître l'évolution de leurs symptômes. Alors, ça a plutôt très bien marché, puisque cette solution-là a été la solution la plus utilisée par les médecins du département de la Meuse, aussi parce que l'ordre des médecins du département de la Meuse en a fait la promotion. Et puis, ça a eu aussi une autre vertu, c'est que ça a permis, en fait, de suivre au plus tôt l'évolution des clusters dans les territoires. Puisqu'on avait cette donnée-là, puisqu'on savait la relier à un code postal, on était en capacité de savoir où, en fait, les clusters se mettaient en place et comment évoluaient ces clusters. Et dans le cadre de la crise par la préfecture, par l'ARS, par le département, ils avaient ces informations-là qui, je pense, ont manqué à pas mal de territoires ailleurs en France pour suivre la crise. Et l'autre élément, et là je dois dire qu'on s'est positionné, mais c'est pas notre métier, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur les équipes de développement du département de la Meuse. Ils se sont emparés du sujet très tôt et on était extrêmement réactifs pour proposer des solutions qui étaient compatibles avec les contraintes d'hébergement donné de santé, etc. Mais qui, en 2 semaines, ont été en capacité de proposer une première solution utilisable par les médecins, puis de la faire évoluer au fil de l'eau en fonction de l'évolution des demandes des médecins, puisque vous le savez comme moi, la symptomologie a évolué pendant la crise, les informations ont remonté également, notamment la sérologie suite en fait aux tests qui étaient faits dans les laboratoires. Donc pour ça, on était en capacité d'être extrêmement réactifs. Et la prochaine étape, à la rentrée, ça va être la portabilité de ces solutions-là sur des smartphones pour que les infirmières à domicile puissent faire cette documentation des symptômes au plus près des patients. Voilà. Ça, c'est un premier exemple et il est complètement lié à la crise Covid. Pour nous, l'intérêt, c'était de se dire, on est au rendez-vous du demande des professionnels de santé. Un autre exemple, c'est encore lié à la problématique de la crise Covid, c'est que de nombreux acteurs, et notamment la région, se sont mobilisés sur la nécessité de pouvoir déployer la téléconsultation à grande échelle sur l'ensemble du territoire, en prévision potentiellement d'un rebond de la crise, mais aussi de ce que va induire la crise Covid, c'est-à-dire que la crise Covid pourrait générer d'autres crises sanitaires moins aiguës, mais pour autant réelles. Le renoncement, soit dans le cas des infections de longue durée, comme les cancers ou autres, ou l'isolement d'une manière plus générale. Et pour ça, en fait, il faut vraiment qu'on ait pu structurer une réponse en termes de téléconsultation pour répondre à ce besoin-là. Et là, une santé, finalement, avec l'approche qu'on a dans notre modèle basé sur les organisations innovantes, sur la formation, sur la maturité numérique, sur l'évaluation, l'idée, c'était de pouvoir proposer cette méthode e-santé à la région pour que ils puissent la déployer dans l'ensemble des territoires et puis avoir une approche interventionniste avec les collectivités et les départements pour se dire pour déployer la téléconsultation dans ce territoire-là, potentiellement il faut que on renforce l'accès au débit, il faut que on contribue au financement des équipements. Il faut qu'on renforce l'accompagnement de la mise en place du service, etc., etc. Donc là, c'est un modèle sur lequel on travaille et que, en tout cas, nous, on va mettre en place dans le département, dans le cadre du projet IMEUS, donc pour les départements de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle et puis de la Meuse. Et le troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est pour donner une dimension peut-être un peu plus économique à notre approche. C'est un de nos partenaires qui s'appelle Avalin. Et Avalin propose un laboratoire de poche connecté qui permet de rendre un résultat immédiat de l'analyse qui est réalisée une fois qu'on a fait un prélèvement d'une goutte de sang et qu'on la met dans l'appareil. Alors l'intérêt, c'est puisqu'on a un résultat immédiat, on peut déclencher une prise en charge immédiate. Et ça peut être extrêmement important, notamment dans certains contextes. Par exemple, pour les EHPAD, quand on est en fin de journée et que, par exemple, la seule solution disponible en fin de journée et la bascule dans les urgences. Donc ce type d'appareil permet d'être un outil d'aide à la décision assez majeur pour prendre la bonne décision en termes de prise en charge et de pas envoyer systématiquement les gens aux urgences, notamment quand c'est pas nécessaire, faute d'avoir une réponse à l'instant T. Alors la première approche qui a été faite avec Avala était un test autour de l'INR, et l'INR permet de suivre les patients sous anticoagulants. Et en fonction du résultat, de réajuster le traitement ou de laisser tel que. L'année dernière, avec Avala, on a testé en expérimentation ce test de l'INR connecté, et ça donnait très bons résultats. Fort finalement de cette expérimentation et d'autres expérimentations qui ont été faites par Avala, Avala a fait une extension de son expérimentation dans un cadre national qui s'appelle l'article 51 et qui va permettre en fait sur 10 000 patients de tester ce dispositif-là. Mais la différence avec notre petite expérimentation, c'est que là, l'expérimentation embarque également un modèle économique, et ce modèle économique doit permettre, demain, si l'expérimentation est probante, eh bien, de mettre en place un nouvel acte dans la nomenclature des actes de biologie médicale pour que derrière, il y ait un financement de droit commun qui puisse soutenir l'utilisation de cet appareil-là. Donc pour Avala, ça veut dire que là aujourd'hui il n'a pas de marché faute de financement, demain pour l'INR connecté il aura un marché potentiel. Charge à lui ensuite de déployer son équipement et d'être toujours en fait à même de proposer la solution la mieux adaptée pour que les utilisateurs l'utilisent entre guillemets. Et ça c'est un premier cycle d'Avala qui a été déclenché dans le cadre d'Imus Santé et pour le coup d'autres partenaires. Cette année, avec Avala, on renouvelle l'expérience. On va relancer une expérimentation autour d'un nouveau test qu'ils proposent avec leur appareil, qui est le suivi de la préalbumine, et la préalbumine, permet de suivre la dénutrition des personnes âgées. Alors, même chose, on va refaire une petite expérimentation en IME Santé. Si elle est probante, force de ces résultats-là, je pense qu'on accompagnera Avala à mettre en place un nouvel article 51, qui lui-même va permettre de définir un nouveau modèle médico-économique pour la généralisation de ce dispositif-là. Et puis après, le dispositif pourra être utilisé en routine par les laboratoires et les utilisateurs dans les EHPAD, par les infirmières, etc., etc. Donc, pour nous, tout l'intérêt, il va résider en fait dans cette capacité à accélérer finalement le déploiement des expérimentations sur une petite échelle et une grande échelle pour que très rapidement on puisse s'inscrire dans le droit commun. Et chacune de nos expérimentations, on va les engager de cette manière-là. Première expérimentation, puis une plus large où on va s'intéresser au modèle médico-économique et au modèle organisationnel et l'évaluation de tout cela pour que derrière, on puisse accélérer la généralisation dans l'intérêt d'opérateurs économiques, bien sûr, mais surtout de la filière dans laquelle s'inscrit l'opérateur économique. Là, en l'occurrence, c'est la biologie délocalisée dans le cadre du parcours de soins, dans l'intérêt du professionnel de santé, et puis dans l'intérêt, évidemment, du patient, parce que c'est quand même pour le patient qu'on fait tout ça. Et là encore, dernier étage de la fusée avec Avala, pour expliquer tout ce que l'on souhaite faire, on souhaite rapprocher, en fait, Avala des professionnels de santé du territoire de Meuse, pour que demain, dans la feuille de route des développements à venir d'Avala, ils tiennent compte finalement des attendus des médecins généralistes, qui sont ceux qui sont finalement prescripteurs de ces analyses, pour que derrière, autant que faire se peut, on puisse faire matcher cette feuille de route avec les attentes des professionnels de santé. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu long, mais je voulais expliquer finalement tout le mécanisme expliquer au travers d'un exemple tout le mécanisme qu'on essaie de soutenir dans le cadre d'Imus Santé.
Je pense qu'il y a quelque chose qui va améliorer encore plus l'ensemble de ces mécanismes qui font cohabiter de l'organisation et aussi une organisation, enfin de l'organisation humaine et une organisation technique, c'est l'arrivée de la 5G. Le fait de pouvoir interconnecter de plus en plus d'objets, de machines ou autres, va permettre d'être plus réactif et dans les centres hospitaliers et chez le particulier.
Vous avez tout à fait raison. Alors, je ne sais pas si on peut parler de révolution avec la 5G par rapport aux technologies précédentes, mais c'est vrai que la 5G apporte un certain nombre de spécificités qui la rendent extrêmement intéressante dans le cadre de la e-santé, notamment la possibilité de gérer des flux parallèles de données venant de dispositifs connectés. Alors, Nous, on a plusieurs expérimentations où on va avoir des dispositifs connectés qui vont être déployés dans les domiciles des patients ou que ce soit des EHPAD ou dans leur maison, hein. Mais justement pour remonter des données qui devront alimenter des dossiers médicaux pour faire simple, mais partagés dans une logique de parcours donc accessible pour tous les professionnels de santé qui sont coordonnés autour de la prise en charge de ce patient. Donc aussi bien le médecin que son spécialiste, que l'infirmière, etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur l'objet connecté. Comment on l'enrôle, comment on le sécurise, comment on exploite les données, comment on les traduit en indicateurs. Et pour ça, la 5G est quelque chose pour nous qui est majeur. Et pour tout vous dire, on envisage dans IME Santé, alors j'imagine l'année prochaine, de faire ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est-à-dire sur un tout petit bout d'expérimentation, de tester ce que peut nous apporter la 5G avec un opérateur.
Oui, ça, il y a le débit, c'est sûr. En fait, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque invention ou une nouveauté, c'est plutôt une convergence de protocoles industriels pour communiquer, entre machines qui est maintenant, qu'ils arrivent à un consensus, à une maturité pour inventer en marketing le mot 5G, mais effectivement, l'essentiel, ça va être les gros débits, et donc aussi derrière, vous parliez donc d'échanger des informations, etc. Mais est-ce que vous avez aussi un axe open data pour mettre à disposition au niveau du conseil départemental une information publique qui permettrait d'avoir une image du terrain, du territoire?
Alors, je vais rebondir sur les deux derniers points que vous venez d'évoquer qui sont des points absolument centraux pour IME Santé. Le premier, vous parliez de convergence finalement des opérateurs autour de la 5G sur un consensus en termes de protocole qui permet finalement d'accélérer le déploiement des usages. Nous, on va le retrouver à plusieurs niveaux, ce besoin de consensus. En fait, cette problématique que nous, on appelle l'interopérabilité des systèmes d'information de santé, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant. On ne souhaite pas finalement que les opérateurs à tout niveau d'IME Santé soient dépendants finalement de l'un ou l'autre des opérateurs parce qu'on serait sur la mise en place de protocoles propriétaires. Donc on est extrêmement vigilant sur l'interopérabilité de la donnée de santé au sens large pour que justement derrière on puisse créer une donnée de qualité qui soit interopérable et qui soit à la main des acteurs territoriaux pour pouvoir l'exploiter. Quand je parle des acteurs territoriaux, ça veut dire une donnée à un moment qui est générée dans le cadre d'un parcours. Il faut qu'elle puisse être mobilisée par l'hôpital, par le médecin de ville, par les ayants droit, pour que derrière ça améliore le parcours de soins et la réponse sanitaire ou médico-sociale ou sociale qui est attendue de la part du patient. Donc à un moment, la donnée qui est générée, elle doit pouvoir être restituée au bon moment, à la bonne modalité, au bon acteur, pour que elle puisse déclencher une prise en charge optimisée. Et l'autre point, c'est que on a un certain nombre d'opérateurs économiques qui vont générer de la donnée et qui ont bien souvent le réflexe de les générer en silo parce que ces données ont une valeur. Nous, ce qu'on cherche à mettre en place dans IME Santé, c'est de faire sauter cette notion de silo en se disant que la donnée en silo a peut-être de la valeur, mais ce sont surtout la conjonction de données qui nous viennent d'opérateurs différents qui aura d'autant plus de valeur. Je vais donner un exemple simple, mais quand j'ai un opérateur qui, sur de l'analyse d'image, fait de la prédiction de plaies, si demain je sais lui apporter une information biologique sur l'évolution finalement du taux de globules blancs de la personne qui est suivie pour sa prédiction de plaies, c'est une information complémentaire qu'il peut intégrer dans son algorithme pour être plus précis finalement dans la réponse qu'il apporte. Et pour ça, ça veut dire que les données qui ont été générées par les deux dispositifs, elles soient accessibles pour les deux parties prenantes. Et pour ça encore, il faut qu'on puisse s'appuyer sur un opérateur tiers, qui soit un tiers de confiance et qui puisse exposer les données en ayant toute la légitimité à le faire et en proposant tout l'écosystème de sécurisation qui permet de le faire. Et pour ça, cet opérateur est certainement un opérateur public ou parapublic et qui est adoubé pour le faire. Alors on peut penser à un opérateur par exemple de type Pulsi ou autre, mais en tout cas, il faut vraiment qu'à un moment, on ait la main sur cette souveraineté et sur cette gouvernance des données. Et sur ces représentations aussi en open data, nous, c'est un sujet qui nous importe parce que effectivement, quand on expliquait tout à l'heure que c'est important pour nous de déployer les innovations dans les bons écosystèmes, il faut aussi qu'on les déploie à bon escient. Donc pour ça, il faut qu'on puisse être au clair sur c'est quoi les besoins de santé d'une population sur un territoire, C'est quoi l'offre de santé sur ce même territoire et en quoi le déploiement d'une innovation va faire bouger les choses? Et pour ça, il faut qu'on s'appuie sur des données qui nous viennent de l'INSEE, de l'ARS, etc., etc. Et il faut qu'on puisse les restituer aux bons acteurs parce que ce sont des outils d'aide à la décision. Donc effectivement, à chaque fois qu'on va travailler dans ces logiques de cartographie où on voudra mesurer l'impact d'une innovation à un T0, puis un T1, puis un T2 sur les territoires et auprès des professionnels de santé, on devra restituer ces données-là. Donc oui, on est dans cette logique d'open data parce qu'elle doit être utile pleinement à ceux qui prennent des décisions sur les territoires, que ce soit les collectivités, que ce soit les départements, que ce soit la région.
Alors, je vous ai entendu là, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, enfin, qui n'a peut-être pas lieu d'être, hein, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vos données, lorsque vous les captez, que vous les mettez à disposition d'autres gens, c'est dans une logique d'améliorer l'expertise et donc d'alimenter des systèmes experts, ou est-ce que vous avez une vision beaucoup plus futuriste avec cette notion qu'on entend un peu partout d'intelligence artificielle, qui personnellement me laisse... Enfin, je n'ai pas de réponse sur ces mots-là.
Alors, oui, dans le dossier qu'on a remis, on a été très prudentiel sur cette notion d'intelligence artificielle, parce qu'on se rend compte que c'est un concept qui finalement est pas si bien connu que ça par tous les acteurs qui emploient cette notion-là. Et du coup, c'est un concept un peu fourre-tout où on peut mettre des choses, comme vous l'avez dit, très futuristes ou des choses beaucoup plus terre-à-terre qui s'apparentent à de la gestion de données. Nous, ce qui est important pour nous, avant d'exploiter de la donnée, c'est savoir comment on génère une donnée de qualité, comment on la stocke d'une manière sécurisée et comment on l'expose aux ayants droit selon les bonnes modalités. Et là-dessus, ce qui nous importe, c'est de se dire... C'est quoi la bonne notion d'entrepôt de données? C'est quoi le bon format de données? C'est quoi la bonne structuration de données? Et une fois finalement qu'on aura mis en place ce réceptacle entre guillemets qualitatif, eh ben ce seront les acteurs qui seront spécialisés, qui sauront exploiter les bonnes données pour mettre en place finalement les réponses qui sont attendues par les professionnels de santé. Alors dans la vraie vie, on va travailler de manière parallélisée sur ces sujets-là, mais on aura tout entre guillemets toujours cette approche un petit peu bicéphale, en se disant il faut qu'on structure un écosystème de développement du big data, de l'intelligence artificielle, etc., de manière très solide, parce que on va créer un futur là-dessus, et le futur, ça veut dire restituer les données aux professionnels de santé quand ils en auront besoin, et puis être en capacité de proposer les jeux de valeur, les jeux de données les plus organisés possibles pour que des opérateurs économiques qui auront été habilités à le faire puissent se les approprier pour justement créer les algorithmes, créer les solutions, avancer pour les professionnels de santé, les patients, etc. Et tout ça dans une dimension économique, entre guillemets, nationale. Il faut que ça serve avant tout aux opérateurs, j'ai envie de dire presque régionaux et nationaux, et que ça ne parte pas finalement dans les GAFA, enfin tel que vous imaginez bien ce risque. Et l'autre point, c'est de se dire effectivement, quand on a un de nos partenaires qui nous dit, moi j'ai un projet d'intelligence artificielle ou un projet dans lequel je dois expérimenter sur des jeux de valeurs de données, c'est de regarder quels sont les besoins et voir comment on est en capacité d'y répondre, mais toujours remettre ça dans la perspective de construire un écosystème qui soit le plus pérenne possible. Donc on va marcher sur ces deux jambes et entre guillemets sur le deuxième axe, on va être un petit peu opportuniste. En fonction finalement de la qualité des projets qui nous seront proposés par les opérateurs.
Oui, effectivement. Et Jean-Charles, notre émission touche à sa fin. Quel souhait formuleriez-vous pour un meilleur accès à des soins de qualité dans la population, pour la population meusienne?
Alors, ça c'est un point qui est important également pour nous. Et depuis le début du projet, on a évidemment dans tout projet, on évolue. Mais en tout cas, il y a un concept sur lequel on est resté très attaché et qui sera un fil conducteur pendant tout notre projet. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui doit nous permettre de donner envie à de jeunes médecins, à de jeunes professionnels de santé de venir s'installer en Meuse, parce qu'ils auront en Meuse des conditions de vie et des conditions d'exercice qui seront attractives et qui ne retrouveront pas forcément ailleurs. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est important pour nous, parce que pour nous, santé, e-santé doit rimer avec proximité. Ça, c'est un point qui est important. Et on espère bien que finalement, ce, ce retour des professionnels de santé, en tout cas, c'est faciliter l'envie de venir sur nos territoires pour les jeunes médecins, génère également des emplois de proximité pour des métiers qui vont évoluer autour, justement, de l'acceptation de ces innovations, de ces nouveaux outils qui vont faire changer à la marge ou de manière plus ou moins importante les métiers, mais en tout cas qui vont les revaloriser et qui donneront à la fois envie de s'inscrire dans ces métiers-là et puis de créer ces nouveaux métiers. Et puis, l'autre point, ça concerne peut-être moins le territoire, mais c'est de renforcer le lien avec ces acteurs économiques pour qu'ils sachent que dans le département de la Meuse, ils ont des conditions d'expérimentation qu'ils ne retrouveront pas ailleurs et que assez spontanément, lorsqu'on pensera à l'innovation du numérique en santé, on pense quand même relativement spontanément au département de la Meuse, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, et en tout cas que le mot e-santé puisse résonner aux oreilles de ces innovateurs. Et le dernier point, il s'adresse surtout aux patients et aux citoyens. Ce qu'on souhaite aussi, c'est leur donner les moyens qui vont leur permettre de s'impliquer dans la thématique de la santé. Qu'ils puissent s'approprier les outils de la prévention, qu'ils aient les bons réflexes, que les outils qu'on leur propose puissent rentrer finalement dans leur quotidien parce qu'ils en auront vu une valeur ajoutée, parce qu'ils se sentiront mieux pris en charge, mieux suivis par l'utilisation de ces outils-là et aussi par l'interaction avec leurs professionnels de santé grâce à ces outils. Voilà, donc j'ai envie de dire que ce sont ces trois axes en fait qui nous motivent dans ce projet-là et qu'on espère mettre en œuvre rapidement.
Merci beaucoup Jean-Charles Dron. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur opérationnel e-Meuse Santé au conseil départemental de la Meuse.
Merci beaucoup Jean-Michel.
Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine émission.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.